Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Il y a d'abord eu les quais de la rive gauche, puis ceux de la rive droite, les rues aux abords des écoles, l'interdiction des véhicules trop polluants, le stationnement payant pour les deux roues. Prochaine étape, un périphérique à 50 km/h, des voies réservées au covoiturage, une zone à trafic limité ou encore l'augmentation du stationnement résidentiel pour les véhicules particulièrement lourds. Selon la ville de Paris, 30 hectares ont été rendus aux piétons depuis la dernière élection municipale de 2020. Des mesures pour améliorer la qualité de l'air dans l'une des villes les plus polluées de France, mais des mesures qui pénalisent certains habitants de la région qui ont moins d'accès aux transports en commun. Avec cette politique de réduction de la voiture, Paris est-elle réellement en train d'être rendue à ses piétons? Et cela n'est-il pas en train de se faire au détriment de ceux qui vivent à quelques kilomètres seulement de la capitale? Pour répondre à toutes ces questions, David Béliard, maire adjoint en charge de la transformation de l'espace public et des mobilités à Paris, ainsi qu'Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Nous entendrons aussi le son de cloche de l'association 60 millions de piétons. Paris sans voiture, illusoire ou inévitable, c'est le sujet de ce nouveau numéro d'Île-de-France Politique. Bonsoir à tous les deux. Merci beaucoup d'être sur le plateau d'Île-de-France Politique. Une conférence de presse a eu lieu ce matin sur le boulevard périphérique. On en sait désormais plus sur cette pérennisation de la voie olympique. Seront donc autorisés les taxis, les véhicules de secours, les VTC pendant leurs courses, les transports en commun, toutes les voitures à partir de deux occupants. Ça fait du monde. Ça va vraiment fluidifier la circulation.
Ça fait du monde, mais ça fait moins de monde. Parce que c'est ça tout l'enjeu, hein. C'est une voie qui va favoriser l'usage, un usage différent de la voiture. Aujourd'hui, il y a entre 1 million et 1 million et demi de personnes qui utilisent le périphérique. C'est la voie la plus utilisée d'Europe. Et donc, nous le savons, il y a 80% de ces voitures, c'est-à-dire 8 voitures sur 10, qui aujourd'hui ne sont utilisées que par une seule personne. Et c'est justement pour éviter qu'on utilise sa voiture uniquement avec une seule personne, pour favoriser surtout celles et ceux qui, quand ils le peuvent, et d'ailleurs on va l'organiser, c'est ça aussi tout notre enjeu, font du covoiturage, c'est-à-dire utilisent leur voiture à deux ou plus, parce qu'une voiture, elle peut transporter jusqu'à 4, 5 personnes. Et c'est ça, en fait, tout notre enjeu. Notre enjeu, c'est quoi? C'est de réduire le nombre de voitures sans réduire le nombre de trajets.
Est-ce que c'est envisageable pour vous, par exemple, de faire du covoiturage? Alors, pour les personnes qui se déplacent tous les jours en voiture.
Alors, du covoiturage, effectivement, quand on est dans des centres très, très concentrés, comme peut l'être Paris, il est sans doute bien plus facile de trouver quelqu'un pas très loin de chez soi pour pouvoir profiter de la voiture du voisin, ce qui n'est pas forcément le cas, et probablement pas beaucoup, hors de Paris et hors des grands centres urbains. Covoiturer, mais ça veut dire aussi avoir les mêmes horaires, ça veut dire aussi avoir les mêmes contraintes, ça veut dire aimer la même musique, ça veut dire avoir les mêmes points communs si on doit faire du covoiturage régulier. Ça s'organise et j'aurais aimé finalement qu'on mette en place l'organisation avant de provoquer le grand bazar qui ne va pas manquer d'être...
On n'a pas encore bien organisé le covoiturage avant de le lancer. Est-ce que cette voie, elle sera lancée juste après les
Jeux Olympiques de 2024, donc on a encore quelques mois. Alors le covoiturage, ce n'est pas nouveau, hein. Des entreprises comme BlaBlaCar, par exemple, covoiture, hein, et d'ailleurs, ils ont fait beaucoup.
Sur des longs trajets.
Beaucoup de business d'une certaine manière avec le covoiturage. Donc, le covoiturage, en fait, ça existe déjà, ça s'organise, bien sûr. Il n'y a pas que le covoiturage de proximité, même si le covoiturage de proximité est extrêmement important. C'est la raison pour laquelle Paris va mettre en place une application pour permettre à ses agents, ses 55 000 agents, de covoiturer. Ça, c'est évidemment un enjeu qui est un enjeu extrêmement important. Après, quand même, je le redis parce qu'il faut toujours redire pourquoi on fait les choses. Aujourd'hui, on a une autoroute qui est pas qui s'appelle le périphérique, mais qui porte très très mal son nom. En fait, on n'est pas, c'est pas le périphérique, c'est une autoroute qui est en centre urbain. Parce que aujourd'hui, il faut regarder un petit peu plus largement. La ville dont on parle, c'est pas Paris. La ville dont on parle, c'est le Grand Paris. C'est 7 millions d'habitants. Et dans ces 7 millions d'habitants, eh bien, il y a une autoroute qui passe et il y a 550 000 personnes. 550 000 personnes qui habitent à proximité de cette autoroute. 550 000 personnes, c'est l'équivalent de la ville de Lyon. Il y a 100 000 personnes.
Mais est-ce que vous avez fait des études justement sur si vous baissez par exemple la vitesse de 20 km/h, si vous instaurez cette voie olympique, est-ce que vous avez peut-être des objectifs ou des résultats d'études qui montrent que ça va vraiment baisser la pollution aux abords du boulevard périphérique?
Alors il y a deux questions dans votre question. La première d'abord sur la question de la réduction de la vitesse maximale. C'est ce que effectivement c'est ce que nous proposons dans les différentes mesures.
50 km/h à partir du 14 septembre.
On verra exactement pour la date, mais en tout cas, c'est 50 km/h parce que c'est une préconisation que nous fait le CEREMA, qui est un organisme indépendant et qui conseille les collectivités. Et elle nous dit quoi ? Elle nous dit quoi ? Pour des raisons de sécurité, il faut baisser la vitesse maximale. Ça, c'est vrai. Nous avons cet objectif.
De sécurité.
Sécurité.
Je vais y revenir.
D'accord.
Les études, elles existent depuis extrêmement longtemps et elles sont nombreuses. Elles se comptent par centaines. Nous savons que lorsque nous diminuons la vitesse maximale, eh bien, nous avons des gains. Des gains en termes de bruit, des gains en termes de fluidité. Parce qu'en fait, ce que nous faisons, et je sais que ça peut être un peu contre-intuitif d'une certaine manière pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que lorsque on diminue la vitesse maximale, on ne diminue pas la vitesse moyenne. Globalement, on circule à moins de 50 km/h sur le périphérique, entre 35 et 40 km/h. Mais par contre, on diminue les à-coups, les accélérations, les décélérations. Ça, c'est ce qui fait du bruit. Ça, c'est ce qui pollue. Ça, c'est ce qui consomme de l'essence. Eh bien, en réduisant la vitesse maximale, nous cherchons à fluidifier le trafic et nous cherchons aussi, effectivement, à diminuer le bruit parce que les 550 000 personnes, elles subissent le bruit, mais tout le temps. C'est aussi ça, hein, l'enjeu. Et puis, on essaye de faire des économies de la même manière que la voie dédiée pour le covoiturage et le transport que nous souhaitons réaliser.
Alexandra Legendre, 50 km/h, finalement, aujourd'hui, on roule à peu près à 35.
De toute façon, on est déjà bien heureux aux heures de pointe de pouvoir atteindre les 30 km/h. Après, cette voie, il n'y a pas de piétons, il n'y a pas de cyclistes sur cette voie-là. Donc, elle est déjà quand même sécurisée. Et ce qui est problématique, en fait, c'est que c'est Paris qui prend cette décision. Et en fait, les Parisiens, en vrai, le périphérique, c'est pas forcément eux qui l'utilisent le plus. C'est les gens qui viennent de l'extérieur de Paris. Et donc, le problème, c'est que cette décision, elle est prise avec une concertation toute relative avec les villes autour. Et finalement, les premières victimes de cet accès qui va être contraint, qui va être plus compliqué au périphérique, ça va être les gens de l'extérieur. Et ça, c'est quand même un vrai problème, parce qu'on le voit à notre association. On a quand même beaucoup de gens qui reviennent vers nous parce qu'ils se sentent de toute façon maltraités au quotidien. Alors ça, pour le coup, partout en France, à partir du moment où on a besoin d'une voiture, on est quasiment coupable au quotidien de devoir démarrer son moteur. Et ceux de la région parisienne en particulier, en effet, eh ben, ils se sentent encore une fois de plus ostracisé, mais ça vaut pour toutes les mesures que vous prenez pour la circulation de Paris, en fait, et puis le stationnement et toutes les réductions de circulation que vous mettez en place. À chaque fois, ça fait des dégâts sociaux, ça fait des dégâts de sérénité, et les solutions alternatives, que ce soit du covoiturage, encore faut-il le mettre en place, et là on parle bien de covoiturage de proximité, et mais il y a aussi les transports en commun, qui sont discutables. Le RER passé certaines heures, c'est peu fréquentable, ne serait-ce que pour des femmes. Enfin, moi, j'ai déjà eu des problèmes dans les RER. C'est bondé aux heures de pointe. Donc, les alternatives à mettre en place, elles sont pas forcément satisfaisantes pour ces gens qui viennent de l'extérieur
de
Paris.
Vous parliez du RER la nuit. Pourquoi ne pas avoir, par exemple, instauré des horaires et peut-être pour les travailleurs du petit matin? Je sais qu'ils sont nombreux à prendre les transports en commun, mais il y en a quand même qui prennent la voiture. Pour le petit matin et pour le soir, eh bien, peut-être permettre à ceux qui ont des horaires assez contraignants de pouvoir rouler à 70 km/h pour venir dans Paris.
D'abord, c'est une question de lisibilité. C'est tout notre...
La voie olympique, par exemple, il y aura des horaires.
Oui, parce que c'est prévu. Maintenant, on a une signalétique une signalétique lumineuse, il faut le dire peut-être à celles et ceux qui nous écoutent. Hein, la voie réservée au covoiturage, elle sera active uniquement à certains horaires, le matin, 7h-10h30, l'après-midi, 16h-20h. Mm-hmm. C'est ça, en fait, aujourd'hui, les horaires. Et le reste du temps... Et le reste du temps... Le reste, oui, mais il faut... Je crois qu'en tout cas, sur la question de la vitesse et la limitation de la vitesse, il faut de la lisibilité. Et puis, la mesure de réduction de la vitesse, elle est très importante pour, encore une fois, parce que, vous savez, c'est toujours la même chose, il manque toujours quelqu'un dans le débat. Et c'est les représentants des gens qui habitent à côté et à proximité du périphérique. C'est ceux qui subissent aujourd'hui les nuisances du périphérique. Quand on prend sa voiture, il ne s'agit pas de culpabiliser. J'ai totalement conscience qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de nos concitoyens et concitoyennes qui sont obligés de prendre la voiture. Et il n'y a pas... notre enjeu et notre volonté n'est pas de culpabiliser. Notre enjeu collectif, d'ailleurs, vous et moi, c'est de changer nos manières de nous déplacer. C'est ça, en fait, notre grand enjeu. Pour ces personnes-là, l'intérêt vraiment de la mesure de limitation de la vitesse maximale à 50 km/h, c'est la nuit. Parce que, effectivement, là, on roule plus vite, le bruit est plus important, parce que c'est paradoxal là encore, mais le bruit est plus difficile à supporter, et notamment parce que, comme vous, comme moi, eh bien, ces personnes, elles ont besoin de dormir. Donc, effectivement, nous avons aujourd'hui une mesure qui est d'abord une mesure de santé publique sur ces 550 000 personnes. Je le redis parce qu'il faut que tout le monde ait bien en tête de quoi on parle. On parle d'une ville comme Lyon, l'équivalent d'une ville comme Lyon qui est sujet, où les gens sont exposés à la pollution de l'air et et au bruit. Et on parlera effectivement...
Sur quel rapport ils fonctionnent, parce que s'ils sont quatrième à 50, parce qu'être en cinquième à 50, c'est quand même pas l'idéal. Et en fait, il faudrait voir les mesures sonores, effectivement, d'être en quatrième vitesse à 50 ou troisième vitesse.
Tout ça a été... Alors là, pour le coup, sur les études, sur la question des études de la réduction de la vitesse maximale, elles existent et elles sont très nombreuses. On sait que lorsqu'on réduit la vitesse maximale sur, par exemple, un axe comme le périphérique, on a un avantage, on a un gain en termes de...
Sur le bon rapport
non,
de vitesse.
On a un gain en termes de bruit au sens large. Je ne vous dis pas que tout le monde va respecter le bon rapport, mais d'ailleurs, je vais vous dire, c'était le même sujet avec les 70 km/h. Lorsqu'on est passé de 90 à 70, c'était les mêmes arguments. C'est toujours la question du rapport, de l'usage en fait qu'on fait lorsqu'on doit effectivement rouler moins vite avec des véhicules qui, c'est vrai, sont conçus pour faire 150, 160, 170 km/h au maximal. Je voudrais juste, si vous me permettez, répondre en une seconde. En une seconde sur la question des alternatives, vous avez tout à fait raison. Il y a un sujet aujourd'hui d'alternatives. Ces alternatives, c'est faux de dire qu'elles n'existent pas. Elles existent. Est-ce qu'elles sont satisfaisantes ? À Paris, en tout cas en Île-de-France.
Je vous demande.
Alors, ça s'appelle le métro, ça s'appelle le bus, ça s'appelle le RER.
Lorsqu'on le bus, se rapproche, c'est pas trop une alternative aujourd'hui, c'est trop le bazar en plus. Hein.
Lorsqu'on se rapproche, non, ça existe. Lorsqu'on se rapproche des centres urbains, ça s'appelle par exemple le vélo, notamment sur Paris et sa première couronne. Ça s'appelle aussi, on en parlera peut-être, la marche à pied lorsqu'on habite dans des centres urbains, par exemple à Paris-Centre, mais pas que. Ça existe aussi dans d'autres endroits de la métropole Grand Paris. Il y a des alternatives. Elles existent. Est-ce qu'elles sont suffisantes ? Non. Ça, c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous continuons à investir. Moi, je continue à investir sur les alternatives sur lesquelles, d'une certaine manière, j'ai la main. Le vélo, par exemple, sur Paris et sur sa métropole. Le bus, par exemple, où effectivement, nous travaillons avec Jean Castex, avec qui j'étais il y a quelques jours, pour justement améliorer les relations entre la ville de Paris et la RATP.
Pour faire mieux, je vais
peut-être vous répondre là-dessus, mais en tout cas, pour faire mieux rouler les bus. Est-ce qu'il faut investir encore dans la qualité de transport en commun ? Oui, mais est-ce que c'est une raison ? Est-ce que c'est une... Oui, mais les gens qui crèvent aujourd'hui, ils disent pas ça. Les gens qui meurent aujourd'hui...
Donc vous allez contraindre des gens,
Vous contraignez, pardon d'être un petit peu dur, mais vous contraignez des gens à mourir. Enfin, vous voyez, non mais vous voyez le sujet. Non mais on peut aller très loin.
On va avancer si vous me le permettez. On va aussi parler de cette zone à trafic limité hein, qui doit être mise en place. Ce sera au début de l'année prochaine, a priori 2025, donc l'année suivante, pardon. Est-ce que vous qui habitez à Paris Centre, vous avez vu la piétonisation ou en tout cas la réduction de la place de la voiture sur la rue de Rivoli? On disait beaucoup les commerçants, ça va pas aller, il ne va plus y avoir personne dans les rues. Bon, a priori, il y a encore pas mal de monde. Est-ce que vous, vous avez senti un changement positif pour vous, habitant Paris-Centre?
Alors, de toute façon, moi, j'ai un choix de vie qui, effectivement, consiste à vivre dans Paris-Centre. Donc, en plus, je vais peut-être vous amuser, je n'ai pas de voiture, parce que ça n'a pas de sens, puisque j'ai effectivement des transports en commun au quotidien. Après, ma solution, quand j'ai une voiture, c'est de la louer, évidemment, parce que j'en ai aussi souvent besoin. Après, sur le changement en tant que piétonne, puisque je suis piétonne de centre-ville, non, je n'ai pas trouvé de mieux, puisque, en fait, je suis beaucoup moins en sécurité aujourd'hui sur les trottoirs que je ne l'étais il y a 5 ou 10 ans, puisqu'on a mis énormément de gens, d'autres personnes, d'autres usagers sur deux roues ou sur une roue un peu partout, de manière assez soudaine et sans suffisamment, je pense, de formation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est piéton à Paris, moi, je crains beaucoup plus les vélos ou les nouveaux usagers que les automobiles, qui sont quand même contraintes et dans la plupart du temps à respecter le code de la route. Ce que j'aurais aimé aussi, c'est qu'en fait, on apprenne mieux aux gens à cohabiter. Ça a été encore une fois fait de manière soudaine et sans rapprochement des associations les unes avec les autres. Moi, je représente une association d'automobilistes. Si j'essaye de me rapprocher d'une association de cyclistes pour essayer de voir, de construire des choses ensemble, je suis aussitôt mise à l'écart parce que, en fait, je ne suis pas audible en tant que représentante d'automobilistes. Donc, il y a un vrai souci de dialogue que ce soit en tant donc de représentante d'association d'automobilistes ou de piétonne à Paris, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à trouver ma place, ce qui n'était pas le cas avant.
Votre réaction, justement,
la réaction, je partage en partie, c'est que nous sommes en train de transformer effectivement la manière de mobilité. Mais vous savez, on en a déjà discuté. Je suis venu ici pour en parler. On a des sujets effectivement de cohabitation entre les piétons, les vélos, les automobilistes aussi. Il faut toujours rappeler quand même une chose, je le redis, les accidents mortels à Paris, comme partout ailleurs, ils sont d'abord liés aux motorisés. C'est lorsque vous vous faites percuter par une voiture, vous avez malheureusement un risque plus fort.
Mais bien sûr, évidemment que quand on tape un vélo en voiture, on fera plus de mal au vélo. Mais le vélo, qu'est-ce qu'il a fait avant?
Il n'a pas tué.
C'était pas pour les piétons.
Non, il n'a pas tué, mais il respecte absolument pas le code de la route et il se met en danger.
Non, mais je voudrais juste vous dire un mot. D'abord que je rappelais juste en fait où était le danger. Vous me dites que vous vous sentez moins en sécurité aujourd'hui qu'hier. En fait, hier, quand il y avait beaucoup de voitures, le danger était plus fort et les chiffres le montrent.
Les chiffres le montrent. Tranquille.
Par contre,
aujourd'hui.
Alors, ça dépendait quand même quand beaucoup de voitures s'égaraient, mais en tout cas, aujourd'hui, on a un sujet. Là, je vous rejoins. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a fait voter un code de la rue, c'est la raison pour laquelle on fait voter un code piéton, un plan piéton sur lequel on va continuer à prendre un certain nombre d'engagements en termes d'infrastructures pour justement mieux vous sécuriser en tant que piétonne. Et aussi, je prends aussi ma part parce que je marche beaucoup, donc en tant que piéton, moi aussi.
Dans le plan climat, vous annoncez notamment des cœurs piétons dans les arrondissements. Ça va ressembler à quoi ?
L'objectif, comme ce que nous faisons par exemple dans le 11e arrondissement à Oberkampf, c'est-à-dire plusieurs rues que nous traitons et qui sont connectées pour faire un espace qui sera un espace où il y aura beaucoup moins de voitures et beaucoup plus de place pour les piétons. Alors ça pourrait être des rues complètement piétonnes, ça pourrait être des rues un peu plus apaisées, on continue à faire passer les bus.
Un peu comme sur le modèle c'est Barcelone, il me semble.
Oui, alors la ville de Barcelone n'est pas tout à fait construite comme la ville de Paris, elle est par bloc. Mais effectivement, l'idée, c'est les mêmes états d'esprit. L'état d'esprit, c'est de dire que par arrondissement, eh bien, nous faisons un endroit où effectivement, on a plusieurs rues qui seront végétalisées avec des arbres, où il y aura moins de voitures, où on gardera et on ne conservera finalement que les bus. Bref, on essaye de faire des zones qui sont ce qu'on appelle des zones apaisées, même si je sais que le terme est un peu galvaudé, et que des endroits où on peut plus marcher, plus profiter de la rue, des trottoirs, sans justement craindre de se faire renverser.
Donc plusieurs pâtés de maison, plusieurs rues.
C'est ça, exactement.
On va parler aussi de cette mesure qui a beaucoup fait réagir, les SUV. On va évoquer la mise en place de cette mesure de façon concrète, justement. Ce sont donc tous les voitures, les véhicules lourds qui vont devoir payer davantage, notamment sur le stationnement visiteur. Qu'est-ce que ça veut dire, les véhicules lourds, les SUV? Ça n'est pas défini sur la carte grise. Comment est-ce que on définit le SUV pour vous, pour ce stationnement, pour verbaliser le stationnement?
Le SUV, vous venez de le dire, ça n'a pas de... C'est un mot un peu marketing, le SUV. Donc,
il y en a de plus en plus qui sont vendus,
c'est ce qu'on voyait sur vos cartes, mais c'est 37% du départ de marché, à Paris c'est beaucoup plus important. Bref, la question c'est le poids. Et c'est le poids et c'est la place. En gros,
un taxi van, c'est très lourd.
Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Oui, mais c'est un usage un peu différent. Aujourd'hui, en fait, un SUV, pour transporter une personne, deux personnes, on a des véhicules qui sont extrêmement lourds, ce qu'on appelle un peu l'obésité des automobiles, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ces véhicules, sur le même usage qu'il y a 15 ans, ils vont peser 300, 400, 500, 600 kilos supplémentaires. Pourquoi? Parce que les constructeurs ne nous vendent que ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui...
Il y a un peu l'ESP, les airbags, l'ABS, la clim aussi, qui sont venus alourdir ces véhicules. C'est pas juste les constructeurs qui s'amusent à faire des choses pour alourdir les voitures. Il y a aussi énormément d'équipements de sécurité qui ont été ajoutés pour le bonheur de tous, y compris des piétons, puisque les sécurisations piétonnes de ces véhicules sont extrêmement abouties. Après, sur les SUV eux-mêmes, je voudrais juste... Je trouve très dommage l'image caricaturale que vous avez choisie pour illustrer vos affiches dans Paris, parce que finalement ces véhicules-là, ceux qui sont représentés dans cette image, c'est une toute petite part. Ce sont les gros SUV, c'est-à-dire des véhicules qui mesurent entre 4,70 m et 5 m, et qui représentent vraiment, en gros, en France, c'est 4% des ventes, quoi. Les autres SUV, ce sont en fait des véhicules qui sont basés sur des plateformes de véhicules compacts, et donc là où on vendait une Laguna une berline familiale il y a quelques années, aujourd'hui, on va se rabattre sur une plateforme plus compacte, plus légère, et on va mettre juste une carrosserie suffisante dessus. Donc, en fait, en vérité, on a changé de catégorie, et le marché automobile, il a lentement glissé vers, au contraire, une réduction des véhicules plus longs, en fait. Ce qui pose problème là, je trouve, c'est effectivement cet amalgame, et encore une fois, cette ostracisation, cette culpabilisation, parce que en fait, je vois pas pourquoi un véhicule homologué, dûment homologué, donc autorisé à la circulation, aurait plus de difficultés dans une partie de France plutôt qu'ailleurs. Parce que de toute façon, on est tous égaux et on a tous le droit d'acheter le véhicule qu'on veut. Et dans ce cas-là, si on veut plus ces véhicules-là, alors à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, on interdit sa circulation.
C'est exactement le message que nous souhaitons.
C'est bien le problème. Juste avant cela, c'est bien le problème. On va écouter l'association 60 millions de piétons qui répondait justement à la question de savoir si cette mesure était suffisamment aboutie.
Il nous semble qu'il y a probablement des mesures plus efficaces que cette mesure, qui sera de toute façon très partielle. Ce n'est pas la masse, en fait, qui prédomine pour ce qui concerne un accident en général et un heurt de piéton en particulier, c'est la vitesse. Nous avons connu la limitation de vitesse généralisée à Paris de 30 km/h. Donc ça, voilà, une mesure qui va dans le bon sens. Et bien entendu, la suite, ce serait de mieux faire respecter cette limitation de vitesse.
Ce que nous dit 60 millions de piétons, c'est que finalement, c'est plutôt la vitesse qui évite les accidents plus que de contraindre les véhicules de taille un peu plus importante.
Alors d'abord, la question qui est posée avec la SUV, vous avez raison, en fait, la mesure, elle est, disons, une mesure un peu d'équilibre. C'est 1,6 tonnes. Pour les véhicules thermiques. Donc en fait, on va prendre en compte à peu près 10% du nombre de véhicules à Paris, et ce sont les véhicules qui sont les plus lourds. Par exemple, une 5008 Berli, une familiale, 5008 Peugeot thermique.
Et pourquoi
classique.
Il est pour le stationnement visiteur et pas le résidentiel?
Parce que alors ça, c'est parce que nous avons fait un engagement mais vous êtes plus ambitieuse que nous, c'est formidable.
On n'achète pas un 5008 par plaisir.
En l'occurrence.
C'est parce que ça rend un service, en fait.
Oui, ça rend un service, mais vous savez, en fait, on a un sujet aujourd'hui. Et vous me parlez de liberté. Moi, si vous voulez, comme vous, comme moi, vous savez qu'il y a quand même une accélération des dérèglements climatiques, qu'on est face à des crises écologiques qui sont majeures, et qu'en fait, aujourd'hui, la question qui nous est... c'est là où j'ai une divergence avec vous. C'est qu'il y a un rapport. Il y a un rapport très fort de savoir si, oui ou non, on continue à vouloir dans nos villes...
Une berline plus longue,
à vouloir dans nos villes, c'est la question... C'est la question.
Pourquoi
du poids.
Une berline plus longue?
Il suffit de regarder tout. Pardon, excusez-moi. Il faut regarder en fait tous les rapports sur la question des SUV. Les SUV.
Pourquoi avoir pointé les SUV? Pourquoi pas les voitures de plus de
1,6 tonnes? Les SUV sont responsables de la moitié. la moitié de l'augmentation des émissions de CO2 ces 10 dernières années.
Mais quel SUV, quelle définition des SUV?
Non mais les SUV, ce n'est pas moi qui le dis.
C'est-à-dire
les véhicules, aujourd'hui nous avons un marché qui va vers des véhicules qui sont plus lourds. Qui dit véhicule plus lourd, c'est-à-dire des véhicules qui consomment plus lourd, madame. Ça veut dire qu'on utilise, mais la familiale a 1,6 tonnes, madame. Si elle, si on a une familiale qui fait 1,7 tonnes, eh bien, elle est considérée dans la convention.
Oui, on va reprendre le débat juste après. On va voir
c'est le mot SUV, vous êtes défendeur.
Si la politique
mais pas du tout, je défends la liberté d'acheter.
Je vais vous demander de m'écouter. On va voir dans notre focus si la politique de la ville en matière de réduction de la place de la voiture a fait évoluer justement, effectivement, la capitale. Bonsoir Maxime, tu t'es penché sur une étude de l'INSEE. Elle a été publiée ce jeudi et il y a de moins en moins de voitures, mais c'est plus marqué à Paris qu'en Île-de-France.
Bonsoir Alexia, oui tout à fait, c'est une étude qui va faire plaisir à monsieur Béliard, une étude qui indique que en 1990 à Paris, 46,3% des ménages possédaient au moins une voiture. En 2019, ce chiffre est passé à 33,5%, une baisse de 12 points, c'est absolument énorme. Et pour mieux comprendre ce chiffre, regardez, on le met en perspective. À l'échelle de la région, en Île-de-France, et sur la même période, le taux d'équipement automobile d'un foyer est passé de 67,5% à 65,6%, une baisse de 2 points. Et en province, il n'y a même pas de baisse, c'est une hausse carrément de 77,5%, on est passé à 84,7%. Alors, comment expliquer une telle baisse à Paris? Selon l'Institut national de la statistique, plusieurs facteurs. Tout d'abord, le niveau de vie. 43% des ménages possèdent une voiture, au moins une voiture, dans le 7e arrondissement. Le 7e qui est, selon l'Observatoire des inégalités, le quartier le plus riche de Paris. Dans le 19e arrondissement, à l'inverse, le quartier le plus pauvre, seulement 34% des ménages en possèdent un. Il y a ensuite d'autres facteurs, le nombre d'enfants dans le ménage, le nombre d'adultes actifs, la place de parking privé, si on en possède une ou non. À chaque fois, plus ce nombre augmente, plus les chances de posséder une ou plusieurs voitures est élevée. Et enfin, vous vous en doutez, les transports en commun. Plus une ville dispose de transports en commun et de gares, moins la dépendance à la voiture est forte. Alors, les transports en commun, justement, qui dit baisse de la voiture, dit augmentation de ces transports en commun. Ils sont de plus en plus utilisés par les Franciliens. Au début des années 2000, 2,6 milliards de voyageurs ont emprunté le réseau de la RATP. En 2018, 3,3 milliards, une hausse de 30%. Et c'est surtout le nombre de vélos comptés dans la capitale qui a évolué, selon les chiffres de la mairie de Paris, plus 125% entre le début des années 2000 et 2019. Alors, si en apparence cette baisse du nombre de véhicules est tout bénef pour les Parisiens, l'est-elle pour le reste de la région? Une étude de l'Institut des politiques publiques parue en 2021 estime que non. Regardez, en vert, vous le voyez, c'est la baisse de la pollution lors de la fermeture de la voie Georges Pompidou à l'époque, qui est devenue piétonne. La baisse de la pollution a profité effectivement aux Parisiens, mais ce trafic a été reporté sur le périphérique. Et dans ce cas-là, il y a eu une hausse de la pollution à la limite de la couronne parisienne. Et il y a même une hausse de la pollution qui impacte négativement plus de Franciliens qu'un impact positif pour les Parisiens qui habitent à côté des voies Georges Pompidou. Enfin, de la voie Georges Pompidou. La maire de Vincennes, Charlotte Libert-Albanel, avait à l'époque déploré les décisions unilatérales de la mairie de Paris et le manque de concertation. J'en viens donc à ma question pour monsieur Béliard. Avez-vous cette fois anticipé le passage à 50 km/h sur le périphérique dans les années à venir? Et si oui, comment?
C'est à moi de répondre maintenant.
Oui, est-ce que vous
super.
Avez
d'abord, non, mais je vais quand même réagir sur la carte 2019. Il faudrait regarder aujourd'hui. Mmh. C'est quoi aujourd'hui cette carte? Aujourd'hui, tous les chiffres nous montrent. Bien sûr, on a des données. Tous les chiffres nous montrent qu'en fait, il y a ce qu'on appelle une évaporation du trafic et qu'il y a une amélioration de la qualité de l'air, pas uniquement sur Paris, mais sur l'ensemble du bassin de la métropole du Grand Paris. Alors, ce n'est pas forcément lié à la piétonnisation des berges de Seine, mais c'est lié globalement à la politique que nous menons.
L'assainissement des véhicules
ensuite,
aussi.
Ensuite, Ensuite, non, en fait, il y a moins de véhicules. En fait, c'est ce qu'on vient de vous expliquer. C'est
qu'il y a moins,
il y a 50% de véhicules. Non, mais je dis pas ça, mais il y a 50% de véhicules en moins qui roulent dans la capitale. Et ensuite, de dire que nous prenons les décisions seuls. Non, nous ne prenons pas les décisions seuls.
C'est ce que nous ont dit beaucoup de maires de banlieue.
Oui, hein, parce que personne n'assume. Pardon, mais personne n'assume aujourd'hui.
Beaucoup de maires de banlieue proches nous ont dit on n'a pas été concertés sur cette décision.
C'est faux. Il y a eu un certain nombre. Je peux vous le dire. D'abord, il y a eu des ateliers sur le périphérique sur lesquels tout le monde était invité, dont la présidente d'ailleurs de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Nous avons fait un livre blanc. Il y a eu une mission d'information et d'évaluation au Conseil de Paris qui a auditionné les représentants de la métropole du Grand Paris ainsi que les élus de l'approche couronne, et ça a donné lieu à un document qui a été voté à l'unanimité par le Conseil de Paris, dont évidemment l'opposition de droite et Rachida Dati qui était à l'époque conseillère de Paris. Bref, les 50 km/h sont prévus dans le dossier de candidature des JO 2024 qui a été voté aussi par la droite et soutenu par la droite ainsi que la majorité présidentielle. Tous ces gens nous expliquent aujourd'hui qu'ils n'ont pas été mis, d'une certaine manière, mis dans la boucle, informés, qu'on leur impose quelque chose sur lequel nous discutons depuis 5, 6, 7 ans. Donc ce débat, il existe. Maintenant, nous avançons. Ce que je constate effectivement, notamment par exemple de la part du gouvernement, c'est que, comme d'habitude sur les questions écologie ou de santé, ils parlent, mais qui agit ? Eh bien, c'est nous.
Justement, on va revenir très brièvement sur la question des SUV. Vous comptez organiser une votation, justement pour savoir s'il faut plus ou moins de SUV donc dans Paris. Ce sera ça la question ? Non, ce sera
une question sur la question
sur
du stationnement,
qui
a un lien direct avec la question du climat.
Est-ce que vous allez vous déplacer aux urnes, vous ?
Comment ? Et pourtant, encore une fois, je ne suis pas une défenseuse du SUV. Moi, j'aime conduire bien le plus près possible de la route. J'ai toujours aimé conduire. J'ai fait toute ma vie dans l'industrie automobile. Donc, le SUV, pour moi, c'est juste un véhicule qui répond à un usage à un moment donné. Et on n'a jamais reproché à qui que ce soit, il y a quelques années, d'acheter des monospaces, parce que qui disait monospace disait famille et chansons à bord. SUV, aujourd'hui, finalement, c'est pareil, c'est les mêmes gabarits. En moins bien, puisqu'il y a moins d'ergonomie, donc effectivement, même pour les familles, c'est moins bien. Mais c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Mais simplement, le SUV aujourd'hui, mais c'est pas vrai, c'est ce qu'on leur vend. Mais ça leur plaît. Mais vous regardez entre une compacte et son équivalent SUV, vous avez le choix. Les deux existent. Simplement, vous êtes peut-être un petit peu âgé et pour monter à bord, vous êtes plus à l'aise pour vous installer et pour descendre de la voiture sur un véhicule légèrement surélevé. Vous avez des enfants à installer à l'arrière et je parle en connaissance de cause, vous cassez moins le dos en les mettant dans leur siège ISOFIX que quand vous en avez, vous avez une voiture, une berline basse. Donc c'est juste que ça correspond à des usages et que ces usages sont tout aussi respectables que d'autres
questions. On a déjà terminé depuis très longtemps. Le stationnement sera plus cher si jamais les Parisiens sont d'accord pour augmenter le stationnement.
Il y a manifestement un débat.
Ce sera plus cher de combien ?
On précisera tous ces éléments plutôt courant décembre.
Et ma dernière question, il y a déjà un vœu qui a été voté en Conseil de Paris. Pourquoi dépenser encore 400 000 euros pour une consultation citoyenne ?
Pourquoi dépenser de l'argent pour la démocratie ? On demande pendant toute la durée de l'émission, vous m'avez dit que nous n'avions pas assez concerté. Là, je vous dis que nous concertons et vous me dites pourquoi dépenser autant d'argent.
Pendant la consultation, la ville se réserve le droit de
Et puis il y a que les Parisiens qui peuvent voter.
Suivre l'avis des Parisiens.
Ah non, c'est pas vrai. Et nous suivrons l'avis des Parisiens et des Parisiennes. S'ils nous ont dit non aux trottinettes, nous avons arrêté les trottinettes. S'ils nous disent non on n'augmente pas le stationnement. J'espère que ça sera oui, on augmente le stationnement pour les véhicules très lourds qui prennent beaucoup de place, qui polluent. Nous le ferons.
Merci à tous les deux. Je suis désolée, on a pris le temps. On a déjà dépassé les compteurs. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro d'Île-de-France Politique. L'info continue sur BFM Paris Île-de-France.